OK, c'est qu'on va commencer notre réunion. On est rendu dans le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. Chapitre 6, puis on est rendu un petit peu, on est rendu au verset, on était au verset 8. On a parlé de la soumission dans le chapitre 5, mari et femme. On a vu cette section-là de l'autorité-soumission. Après ça, on a vu les enfants avec les parents. Puis là, on est dans les serviteurs avec les maîtres. On peut penser à nos employeurs, puis ceux qui sont employés. Donc, on va lire à partir du verset, on va lire peut-être à partir du verset 5 du chapitre 6 pour se remettre dans le contexte. Donc, Éphésiens 6 au chapitre 6 au verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Seigneur va bénir la lecture de sa parole. On va demander son aide. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois pour ta parole ce soir. Merci pour tous ceux qui se sont joints ce soir pour ensemble regarder ta parole, étudier ta parole, puis non seulement pour juste une connaissance intellectuelle, mais que puisse travailler dans nos cœurs, parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet. On te remercie, notre Dieu, puis bénis chacun ce soir dans tous nos besoins. On te rend grâce pour toutes choses au nom et pour la gloire de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK, donc on avait parlé du principe d'autorité-soumission. C'est un principe qui nous vient de Dieu. C'est Dieu qui, lui, il est en autorité suprême, mais lui a délégué des autorités. Puis, mais aussi, il y a des gens qui sont sujets à l'autorité. Puis, on voit que quand il parle à ceux qui sont sujets à l'autorité, de se soumettre, mais il parle aussi à ceux qui sont en autorité, de le faire avec de la bonne façon, en réalisant que leur autorité leur a été déléguée par le Seigneur, puis ils auront à rendre compte au Seigneur à cause de leur autorité qui leur a été donnée. C'est sûr, comme on a parlé déjà, c'est qu'il y a beaucoup qui sont en position d'autorité qui ne réalisent pas qu'un jour, ils auront à rendre compte de quelle façon ils ont exercé l'autorité. C'est important de le faire. On avait parlé dans la foi des enfants qui obéissent aux parents, les parents qui aussi n'héritent pas comme père, n'héritez pas vos enfants. Maintenant, on a parlé des serviteurs, qu'on doit obéir à nos maîtres, mais non seulement sous leurs yeux, mais comme pour plaire au Seigneur. Puis là, on arrive maintenant au maître. On avait vu au verset 7, là, on arrive au verset 8 et 10, sachant. Verset 7, il dit, servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Ça, c'est des serviteurs. Au verset 8, il dit, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Donc, c'est toujours en vue du Seigneur, en ayant en vue le tribunal de Christ. C'est là que les choses vont se régler au tribunal de Christ. C'est toujours en vue de ce jour-là où on va paraître devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'on va rendre compte de la façon qu'on a agi dans le rôle qui nous était attribué par le Seigneur. C'est important. Fait que peu importe la situation, comme il dit ici, quand ce soit esclave ou libre, on parle d'esclave, on peut parler d'employé. Puis qu'on soit en position d'employé ou qu'on soit en position d'employeur, mais c'est toujours avec l'idée qu'un jour, on va avoir à rendre compte de la façon qu'on a, on a joué notre rôle dans la société, dans cette atmosphère-là d'autorité-soumission. Au verset 9, il dit, Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Donc, il s'adresse aux maîtres, puis il leur dit, agissez de même. Mais comment? Ben, il parle avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Donc, c'est les maîtres aussi sont sous l'autorité du Seigneur, ce qu'ils ont à rendre compte aussi. Il faut qu'ils prennent bien soin de le faire d'une façon que le Seigneur peut approuver. C'est ça qui est important en bout de ligne quand on va arriver devant lui, c'est que c'est l'approbation du Seigneur qui va être importante à ce moment-là, là. Donc, les maîtres, il y a aussi une exhortation de bien traiter ses serviteurs. Puis ça, c'est des fois, c'est pas facile quand on est en position d'autorité, on a tendance à vouloir abuser de notre autorité, mais ici, il avertit bien les maîtres, là. Puis il parle ici à des chrétiens, on sait qu'il parlait dans la doctrine, après ça, il parlait de la marche chrétienne, puis on est encore dans la marche chrétienne, puis c'était se conduire avec circonspection, donc en faisant bien attention. Fait que les maîtres aussi, il faut qu'ils fassent bien attention de quelle façon ils vont traiter leurs employés ici, là. Dieu leur montre ici qu'ils vont avoir à rendre compte aussi, là. Quand on pense qu'on est en autorité, des fois on ne pense pas qu'on va avoir à rendre compte, mais dans le Seigneur, c'est lui qui est l'autorité suprême, puis on va toujours avoir à rendre compte à lui, là. Il dit, abstenez-vous de menaces. Donc, il ne faut pas faire des menaces à ses employés. Vous savez, quand on fait des menaces aux employés, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon d'avoir la meilleure production de nos employés. Je voyageais une fois avec un frère dans le Seigneur, puis lui, il avait des employés à son bureau, puis là, il les appelait. Il y avait son homme de confiance, puis il y avait une couple d'employés. Puis il les appelait quand on était en voyage, puis là, il disait, travaille pas trop fort, là, tu sais. Mais on sait que ce gars-là était bien dévoué parce qu'il était bien traité, puis il traitait bien son employé. Puis son employé était bien dévoué envers lui. Ça fait qu'en lui disant ça, on sait qu'il y avait quand même le meilleur service de cet employé-là, là, parce qu'il traitait bien. Ça fait que c'est une bonne façon de bien traiter les employés. C'est une chose qui est bon devant le Seigneur. Parce qu'ils vont y auront rendu compte. On va aller dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, les versets 20 à 24. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 7. Et les versets 20 à 24. Ici, Paul, il parle aux Corinthiens, mais on voit que les choses se rejoignent, là. Les thèmes se rejoignent, puis il dit dans 1 Corinthiens 7 au verset 20 que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. On parle de soit esclave, soit libre, là, ou soit un maître. Il dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. C'est pas grave de ne pas s'en faire avec ça, ça devient pas une chose importante. Il dit, As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, c'est pas grave. Si tu es un serviteur, si tu es un employé, c'est pas grave. Il dit, ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plus tôt. Ça ne veut pas dire que c'est pas correct pour quelqu'un de devenir en autorité. S'il était dans la position de soumission, c'est pas qu'il essaie d'usurper l'autorité, mais si la possibilité lui arrive qu'il peut changer de sa position. Il dit, as-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plus tôt, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Là, ici, c'est un peu un jeu de mots que Paul il fait souvent dans ses exhortations. Il fait comme des jeux de mots ici. Il dit que l'esclave, ben, il a été affranchi par le Seigneur. C'est sûr, on est des affranchis du Seigneur. Il nous a rachetés. pour qu'on lui appartienne. Ça fait que même si on est un esclave, qu'on est en position de soumission, on est affranchi par le Seigneur. Parce que même si on est sous l'autorité d'un maître, bien, nous autres, on s'est mis sous l'autorité du Seigneur. Ça fait qu'on est libre dans ce sens-là. Puis quand on fait le bien, bien, il n'y a pas de problème. On est dans une liberté de faire le bien. Il dit, tu étais appelé étant esclave, ne t'en inquiète pas, mais OK, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Voyez-vous comment est-ce qu'il joue sur les mots ici, là? Mais c'est sûr qu'on est tous des esclaves de Christ, mais on est des affranchis aussi. Ça fait que la position qu'on a dans le monde, qu'on soit esclave, serviteur ou qu'on soit des maîtres, ben, c'est pas tellement grave, là. L'important, c'est quoi? C'est qu'on a été affranchis de notre vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos pères. Mais aussi, en étant affranchis, ben, on s'est rendu esclave de Christ parce que c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui est notre maître. Comme il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ensuite de ça, il dit, comme il dit au verset 23, que vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Fait que, même si on est esclaves des hommes, dans un sens, nous, ce n'est pas d'eux autres qu'on est esclaves, on est esclaves du Seigneur. Fait que, Paul, c'est ça qu'il exhorte ici, hein. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Donc, vraiment, il démontre ici que ce n'est pas tellement grave d'être soit un serviteur ou d'être en position d'autorité. Vous savez, des fois, c'est plus facile d'être en position de soumission qu'être en position d'autorité. Parce que ce qui arrive avec la position d'autorité, c'est qu'on est redevable. Beaucoup plus que si on est en position de soumission, bien, on n'a qu'à se soumettre, puis ça va bien aller, puis on n'aura pas de problème. Donc, c'est vraiment important. Ce qui est important, c'est vraiment d'appartenir au Seigneur, puis de vouloir le servir, lui. Donc, devant le Seigneur, là, on est tout égal. Il n'y a pas de problème, que ce soit un maître ou un serviteur, on est tous égaux devant le Seigneur. On a été rachetés au même prix, par le prix du sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Mais donc la position ici qu'on a sur la terre, c'est juste pour le temps. C'est juste une position temporelle. Parce que dans l'éternité, les choses vont changer. On sait que ceux qui vont avoir servi le Seigneur, même s'ils étaient en position d'infériorité grande, puis le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il a fait, hein, il s'est humilié, puis Dieu l'a exalté. Ça fait que dans un sens, quand on est serviteur, ben ça va changer dans l'éternité, dépendamment de comment on va avoir servi le Seigneur. Il y a des maîtres les choses vont changer, là. Il y a des maîtres qui vont être des serviteurs, puis des serviteurs qui vont être des maîtres, là. Ça va tout dépendre de la façon qu'on a servi le Seigneur dans notre situation. Puis aussi, même sur la terre, on est dans des positions qui peuvent changer, dépendamment de où on est, là. Vous savez, quand on arrive dans l'assemblée, ben, les positions peuvent changer. On a parlé des enfants qui se soumettent à leurs parents. Mais dans l'assemblée, on peut à un moment donné arriver que le fils peut être un ancien, puis le père une brebis. C'est que le fils qui, dans la famille, il se soumettait à son père, mais on parle avant le mariage, là, et qui se soumettait à son père, bien, dans l'assemblée, les rôles changent. Parce que là, c'est le fils qui est en autorité, puis le père est en soumission. Fait que ces situations-là peuvent changer dépendamment du contexte où on est, là. Puis la même chose, un employé peut être en autorité dans l'assemblée, tandis que l'employeur, lui, il est en position de soumission. C'est que quand on est au travail, ben, c'est lui qui a l'autorité. Puis quand on arrive dans l'assemblée, ben là, c'est l'autre qui va avoir l'autorité. Puis celui qui est en autorité devient en position de soumission. Donc, c'est pas tellement grave. Je pense que qu'est-ce que Paul il veut dire ici, c'est pas grave qu'on soit en autorité ou en soumission. L'important, c'est qu'on le fasse avec empressement, comme servant le Seigneur. Soit qu'on sert les hommes en servant le Seigneur, ou soit qu'on a autorité sur les hommes en servant le Seigneur. C'est qu'on est tous des serviteurs du Seigneur. Puis, c'est pas tellement grave. Ça, c'est juste temporel. C'est juste pour le temps. Ça dépend du contexte. Mais ce qui est important là-dedans, C'est comme Paul disait, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, c'est ça qui est important, c'est de bien jouer notre rôle, c'est ça qui est important. Mais maintenant, on arrive au verset 10. Puis là, on entre dans un sujet qui est très important aussi, que souvent, c'est un sujet qui n'est pas réalisé, je pense, pleinement par les chrétiens des fois, c'est que la vie chrétienne, c'est un grand conflit. Là, on rentre dans un grand conflit. Puis, on l'a vu, là, de la façon de marcher, tout ça, c'est contre notre nature, parce qu'on est rebelle par nature, puis là, il nous demande d'être en soumission, ou même si on est en autorité, d'être d'une bonne autorité, comme étant sous l'autorité du Seigneur. Mais pour ça qu'il a introduit ici au verset 10, il dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc ici, il parle de se fortifier dans la puissance, par sa force, la force du Seigneur qui est toute puissante. Mais l'expression qu'il nous dit ici, au reste, puis dans l'original, c'est au reste, frères. Mais ici, il va en venir à la fin pour démontrer que la vie chrétienne, ce n'est pas pour les faibles. La vie chrétienne, c'est un défi. La vie chrétienne, c'est un combat. Puis ceux qui pensent que ce n'est pas un combat, ben, ils ne connaissent pas vraiment c'est quoi la vie chrétienne. Parce que on va le voir, là, on a des grands combats à livrer. Puis même, on peut dire que la vie chrétienne est impossible par un homme ou par une femme. La vie chrétienne est impossible sans la puissance du Seigneur. C'est par la puissance du Seigneur qu'on peut vivre notre vie chrétienne dans le combat qu'on a à livrer là. C'est un combat à la mort. C'est tout un combat là. Il nous parle de des armes puissantes, là, il va nous en parler. Puis c'est un combat à la mort. Il y a un frère qui me disait, lui, il était dans une église où qui prêchait l'évangile de la prospérité. Parce que si tu as la foi, tu vas être riche, tu ne seras pas malade, tout va bien aller, il n'y a pas de combat, ça va être facile. Puis lui, il était dans une église qui prêchait cet évangile de prospérité, mais lui, il en est venu à réaliser que ça rentrait en conflit en lisant la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, on voit quoi? On voit du conflit, on voit du défi. Même Paul qui. Puis plus on va servir le Seigneur avec acharnement, plus on va rencontrer de l'adversité parce qu'on est en terrain ennemi ici. On n'est pas. Quand on va être au ciel, les combats vont être finis. On va être avec le Seigneur, tout le monde va être d'accord. Tout le monde va être d'accord pour se soumettre au Seigneur, puis louer le Seigneur. On va tous d'un même cœur, d'un même esprit. Mais ici, sur la terre, il y a des conflits, puis il y a des problèmes. On l'a vu en lisant la façon de marcher. Donc lui, il avait vu que, il avait réalisé en lisant la parole de Dieu que ce n'était pas la réalité qu'il vivait dans cette église-là. Puis il y avait pas de conflit, puis il n'y avait pas besoin de la puissance du Seigneur parce que tout était beau. Mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Dans la réalité, on réalise que oui, il y a un conflit, puis on a besoin de la puissance du Seigneur, comme il dit ici. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Donc, on a une grande force. Il avait parlé aussi dans le chapitre 1, là, il avait parlé de ça au verset 19. Il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Fait que si on a besoin de cette puissance-là, c'est parce que c'est une vie difficile, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est sûr que si la vie chrétienne est une vie impossible, mais avec la puissance de Dieu, on a toute la puissance suffisante pour faire face à toute l'adversité, puis on va voir là qu'il y a des dominations, les puissances du mal dans les lieux célestes. Là. Donc on a un conflit qui c'est pas avec la chair et le sang qu'on a à se battre, parce que si on se battrait contre la chair et le sang, bien, il y a des armes charnelles. Mais ce conflit-là n'est pas charnel. Ce conflit-là est spirituel. Puis on a besoin de toutes les armes de Dieu ici. Là. Donc c'est pour ça qu'au verset 10, quand il dit au reste, quand il dit au reste, c'est parce que maintenant, il y a tout étalé, les choses en ordre. Puis là, il dit, maintenant, à cause de tout ce qu'il nous a dit auparavant, ben là, c'est la façon, c'est la puissance qu'on a besoin pour livrer le combat acharné qu'on est devant nous. Donc, au chapitre 1, il avait étalé les bénédictions. dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il avait étalé les bénédictions. Dans le chapitre 1, il a terminé avec sa prière pour qu'il puisse prendre la puissance de Dieu, pour qu'il puisse être dans la puissance de Dieu pour avancer. Puis cette puissance-là était disponible dans cette toute puissance-là. Dans le chapitre 2, il avait revenu à leur origine, d'où ils venaient. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Ça, c'est notre origine, c'est là qu'on vient. Puis ensuite de ça, il a parlé de leur salut, hein? Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc il nous a parlé de notre salut, il nous a pris dans les ténèbres, dans où on était, il nous a sauvés par sa grâce. Puis ce n'est pas par les œuvres, hein, que personne ne se glorifie. Mais ensuite de ça, dans le chapitre 2, 3, 2 à 3, il avait parlé de la construction. Comment maintenant, nous qui étions avant, on était séparés de Christ, maintenant, il nous a mis ensemble, juifs et gentils, pour former un seul corps. Il nous a construit. C'est quand le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, il nous a construit ensemble. Puis, ça finit aussi par une prière dans le chapitre 3. Là, Paul, il priait encore pour eux autres, puis afin qu'ils soient dans l'amour de Christ, qu'ils soient vraiment construits dans cet amour-là. Puis dans le chapitre 4 et 5, alors, comme on a vu, il a parlé de la marche qui est probablement digne de la vocation dans l'unité, plus comme les païens qui marchent selon leur pensée, puis qui sont dans les ténèbres. Puis il a parlé ensuite de ça, de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, en sacrifice pour les autres. Puis il avait dit aussi de marcher comme des enfants de lumière, étant éclairés par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. On sait maintenant comment fonctionner. Puis on avait vu aussi de marcher avec circonspection. Dans le chapitre 5 et 6, maintenant, il nous a parlé de l'autorité soumission, ceux qui sont en position de soumission, ceux qui sont en position d'autorité, puis de bien fonctionner comme ça, là. Mais maintenant, il en vient aux ressources disponibles pour que ça puisse se faire. Un peu comme moi dans ma Bible, ça me parle de la vie intérieure du croyant rempli de l'esprit. C'est la marche du croyant rempli de l'esprit. C'est la vie domestique du croyant rempli de l'esprit. C'est toujours du fait qu'on est rempli de l'esprit, on peut vivre de cette façon-là. Là. C'est important. Puis la puissance qui va être à notre disponibilité dans ce grand conflit-là. Là. Il introduit ça par au reste. Donc, on pourrait dire comme finalement, à la fin, comme conclusion, à cause de toutes ces choses-là qui ont été dites. Puis, dans l'original, comme j'ai dit, il y a les mots au reste, mes frères. Donc, il y a le mot frère là-dedans. Puis, dans la version Darby aussi, il y a le mot frère. Mais le combat, ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Paul, il s'adresse à eux, là, qui sont à l'église d'Éphèse, mais aussi à nous autres, par le fait même. Mais ici, c'est que Paul, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que le combat, là, n'est pas seulement pour Paul, comme un héros, là, qu'on dit, waouh, lui, c'est un héros, nous autres, on n'a pas ce combat-là, mais il parle à eux comme des frères, là. Puis il s'adresse à eux au même niveau qu'eux aussi sont dans le combat, là. Ce n'est pas juste certaines élites qui sont dans le combat, mais tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, bien, on est concitoyens des cieux, mais on est des étrangers, puis des voyageurs sur la terre. Puis on est en conflit avec qui? Avec le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On a changé de clan. Donc, en étant changé de clan, on est dans ce conflit-là. Si on ne réalise pas, il y a un problème, là. Ça fait que, mais si on fonctionne de la façon que le Seigneur veut qu'on fonctionne, on va rentrer en conflit avec le monde dans lequel on vit. Puis s'il n'y a pas de conflit, mais il y a un problème. Il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas bien parce que Paul, lui, expérimentait le conflit journellement. Il était toujours en conflit. Et plus qu'on va vivre pour le Seigneur, plus on va rentrer dans le conflit ici, là. Donc, ce n'est pas juste Paul comme un héros, mais nous tous ensemble, on a parlé de marcher selon la vocation, là. Il a parlé de l'unité de l'Église. C'est qui fait l'œuvre du Seigneur sur la terre? Ce n'est pas des hommes, c'est l'Église. C'est des hommes dans l'Église. Mais c'est à travers l'Église qu'on fait l'œuvre du Seigneur. Quand le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, il s'adressait à l'Église. Puis dans le livre des Actes, quand on voit dans le livre des Actes, comment l'Église, c'est l'Église qui allait, oui, il y avait les membres de l'Église qui faisaient le travail, mais c'est l'Église ensemble. Il y avait ceux qui priaient, il y avait ceux qui allaient, il y avait ceux qui donnaient, il y avait ceux. On est toute une équipe, on est un corps, on est le corps de Christ. Il l'a bien expliqué dans le chapitre 2-3, pour être une habitation de Dieu en esprit. Puis c'est le Seigneur Jésus qui agit à travers nous, chacun pour sa part, on a des fonctions. Donc on est tous engagés dans ce conflit-là. C'est vraiment important de bien comprendre ça. C'est pas comme il y a quelqu'un qui est en avant, c'est lui qui dirige, puis les autres, on est juste des spectateurs. Puis, tristement, des fois, dans les dénominations, c'est comme ça que ça vient, c'est que, mais pas tous, là, mais on a tous des dons, on a toutes des fonctions, on a tous des ministères, puis on doit pas, il n'y a pas de spectateur. Tout le monde est là pour faire fonctionner l'œuvre du Seigneur, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donc, vraiment, la réalité, là, c'est qu'on est tous comme une armée engagée dans un grand conflit. Chacun de nous autres, on est tous une armée ensemble engagée dans un grand conflit. Puis, c'est pas une question de se divertir, là, c'est une question de mener le combat par la puissance de Dieu. Puis, on a besoin pour ça, si on est dans le conflit, si on est dans un grand combat ici sur la terre, ben c'est sûr que avant, quand tu t'engages dans l'armée, ben, ils vont t'entraîner, puis après ça, ils vont t'équiper, puis là, ils vont t'envoyer au combat. C'est la même chose pour nous autres. On s'est engagé dans l'armée du Seigneur, puis le Seigneur, il nous équipe, il nous entraîne, il nous équipe, puis il nous envoie au combat. Aussitôt qu'on est sauvé, on rentre dans le combat, là. On sait que quand on commence à parler aux autres du Seigneur, là, on s'aperçoit tout de suite du combat, là. Quand on commence à témoigner de notre foi autour de nous autres, là, il y a un combat qui se fait. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils vont nous rejeter. On s'aperçoit de ça rapidement, là. Donc, mais il y a trois armures dans les écrits de Paul, que Paul nous parle de trois armures. Puis ces trois armures-là sont importantes parce que on va aller dans Romains 13. On va une armure dans Romains 13. Comme j'ai dit, les thèmes se retrouvent dans les autres épîtres aussi parce que l'instruction, Paul, il donnait l'instruction. Des fois, ils disent, ah, ben, c'est quand il a parlé aux Corinthiens. Mais quand il a parlé aux Corinthiens, il parlait à nous autres aussi. Puis il disait aussi à Laodicée, la lettre qu'il avait envoyée, de lire la lettre qui avait été envoyée à Laodicée. Parce que toutes ces instructions-là sont bonnes pour nous autres, là. Puis on les prend, on ne dit pas, ben, ça a été écrit aux Corinthiens. Non, la lettre s'adresse à tous ceux qui invoquent le Seigneur en quelque lieu que ce soit. Puis les instructions qui sont données sont bonnes pour nous autres. C'est sûr que les instructions sont données sous différents aspects à différentes assemblées, mais il met l'emphase sur une facette, mais l'enseignement est le même. Paul disait ça aux Corinthiens, comme on l'enseigne dans toutes les églises. C'est important. Mais dans le combat dans Romains 13, on va aller au verset 12, on va aller au verset 11. Ici, il nous dit au verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Au verset 12, il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes. Voyez-vous, il parle d'une armure ici, là. De se dépouiller des œuvres de ténèbres, c'est ce qu'on faisait auparavant, et revêtons les armes de lumière, de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, quand on regarde ce passage-là, il y a une armure, mais c'est qui l'ennemi ici, là? C'est la chair. Donc, c'est une armure ici contre la chair. On a à lutter contre la chair, notre chair. Quand il dit ici dans Éphésiens, il dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Il parle des adversaires. Mais dans notre chair, on a un combat, on a un ennemi. C'est la chair. Il faut vraiment, on a besoin de l'armure de la lumière ou les armes de la lumière. Ensuite de ça, dans 2 Corinthiens 6, 7 aussi, il parle d'une armure. Donc, cette armure-là, ici, c'est pour contre la chair, notre chair. On va dans 2 Corinthiens, au chapitre 6. On va voir une autre armée, chapitre 6, et le verset 3 à 10. Donc, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 3, il dit, nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint et par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes. Ici, il nous parle encore des armes, là, une armure. Par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique nous soyons, que non mis à mort, comme attristés, nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Donc, il parle ici, donc il y a un combat ici, là. Puis il parle des armes, là, des armes offensives et défensives de la justice. Dans le combat, ça c'est le combat avec le monde. Parce que Paul était dans le monde, puis c'est dans le monde qu'il voyait toute cette adversité-là. Il parlait des séditions, des travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Mais il y avait besoin des armes ici, mais c'est des armes offensives et défensives de la justice. Offensive, c'est quand on. Parce que Paul, il était à l'offensive aussi, même si parfois il était à la défensive. C'est que ça nous parle, on va en parler aussi de l'offensive, c'est important. On a besoin des armes ici, comme il dit, c'est des armes offensives et défensives de la justice. Si on lutte dans le monde, puis si on n'agit pas avec justice, bien, c'est sûr que ça va donner un blâme sur l'Évangile. Parce que l'Évangile, on ne combat pas. C'est un peu comme les Jésuites, ils disaient, la fin justifie les moyens. Mais ce n'est pas dans le Seigneur, ça. La fin justifie pas les moyens. Parce qu'on pouvait mentir, on pouvait faire des mauvaises choses pour en arriver à quelque chose de bien. Mais ce n'est pas comme ça dans la parole de Dieu. C'est des armes offensives et défensives de la justice. Il faut toujours que ça soit juste, ça soit pas croche. Il faut que ça soit, on combat le combat, mais dans la justice, pour la justice. Ensuite de ça, bien, on a ici dans Éphésiens 6,13, on a toute une armure ici, dans les versets 10 à 20. Comme il nous a dit, revêtez-vous, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Puis faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Donc ici, on a une armure aussi. Mais ici, c'est une armure qui est plus complète encore. Parce que ici, on parle d'une panoplie, là. C'est toutes les armes de Dieu qu'on a besoin. Pourquoi? Parce qu'ici, là, c'est qui l'ennemi? Ici, c'est le diable, puis les puissances des ténèbres. Donc, la première armure, c'était contre notre chair. La deuxième armure, c'est contre le monde. Puis la troisième armure qu'on voit ici, c'est contre le diable. Puis ça, c'est nos trois ennemis qu'on a dans le monde dans lequel on vit. C'est ces trois ennemis-là, la chair, le monde et le diable. Puis, mais le Seigneur, comme il nous parlait de sa force toute-puissance, comme il disait, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute-puissante, ben c'est ça, pour combattre contre ces trois ennemis-là, il faut les identifier, il faut les connaître, puis il faut savoir comment lutter contre ces trois ennemis-là. C'est vraiment important parce que, vous savez, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de chrétiens qui n'identifient pas les ennemis, puis ils ne combattent pas de la bonne façon, ils ne combattent pas le bon combat avec les bonnes armes puis qu'ils viennent de Dieu par la force toute puissance de Dieu. C'est sûr que si on combat pas le combat selon Dieu, on n'aura pas la puissance de Dieu avec nous. Si on combat les combats selon notre chair, bien, on va s'arranger avec avec notre force qui est très faible. Donc, on a besoin d'être dirigé par lui. Puis, comme il nous a dit dans Éphésiens 2, 10, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, c'est quand on pratique, c'est quand on est dans le plan de Dieu pour notre vie, on va rencontrer ces trois ennemis-là, la chair, le monde et le diable. Mais on a toutes les armures pour pouvoir lutter d'une façon efficace, puis de résister, puis d'être ferme là-dedans. Donc, ici, c'est un commandement qui nous dit, là, dans le verset 10, là, fortifiez-vous. Ça, c'est un commandement. Fortifiez-vous dans le Seigneur. La ressource, c'est quoi? Par sa force toute-puissante. Donc, c'est un commandement qui nous est donné à se fortifier pour combattre le combat. Ceux qui ne réalisent pas ce combat-là, puis qui ne réalisent pas qu'ils ont besoin de se fortifier, bien, ils manquent le but, puis leur vie n'aura pas de l'importance pour le Seigneur. Verset 11, ici, c'est l'armure est fournie, mais il faut la revêtir. Comme il dit ici, revêtez-vous. Donc, il y a un commandement. C'est faux de penser qu'on n'a pas besoin, ça va tout se faire par le. Il y a des. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le Seigneur, il veut qu'on le fasse. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Lui, il va le faire. C'est comme quand il a ressuscité Lazare du tombeau, mais il a dit rouler la pierre. Les autres, ils pouvaient rouler la pierre. Il ne pouvait pas le ressusciter, mais ils pouvaient rouler la pierre. Puis le Seigneur, il aurait pu l'enlever, la pierre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il veut qu'on le fasse. Mais le reste, c'est lui qui va le faire. C'est sûr que s'il avait roulé la pierre, ça n'aurait pas ressuscité Lazare. Mais le Seigneur, ça, lui, s'en charge. Ce qui est impossible à nous est possible à lui. Puis c'est pour ça qu'il nous dit ici, mais de se revêtir ici de toutes les armes de Dieu, ça, c'est notre responsabilité. C'est un commandement, puis c'est à nous autres de le faire. Si on ne le fait pas, on va se trouver au front sans armure. Ça va pas bien quand on se ramasse en face de l'ennemi, puis on n'est pas équipé, là. On n'est pas entraîné, puis on n'est pas équipé, là. On n'a pas ce qu'il faut pour faire face à l'ennemi, là. C'est la défaite. Donc, il faut le réaliser, puis il faut répondre au commandement du Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour être prêt, là. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, il faut être bien équipé, bien entraîné, être prêt à fournir. L'armure, elle est fournie. Mais il faut qu'on la mette. Il faut qu'on la mette sur nous. C'est à nous autres de la mettre pour s'engager dans le combat. Vous savez, des fois, dans les temps modernes, on dirait que des fois, c'est les femmes qui sont plus engagées à l'Église. Puis l'homme, lui, il va avec sa femme à l'Église. Puis il est bien passif. Il va, puis s'assied, puis écoute, puis il fait rien. Mais c'est pas comme ça, la vie chrétienne, là. Mais quand il arrive à son travail, puis dans ses loisirs, là, il est efficace. Là, il combat. Là, il met toute sa force pour combattre. Mais quand il arrive à l'église, c'est comme une détente. Il s'en va, il s'assied, il ne fait rien. Non, ça, ce n'est pas la façon que Dieu veut que ce soit. Il veut que nous autres, les hommes et les femmes, on soit pleinement engagés. Puis c'est sûr qu'on travaille, mais disons, ça, c'est important. Est-ce que le travail est plus important que notre vie dans le Seigneur? Non. Quand on a nos priorités à la bonne place, il dit chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, c'est sûr qu'au travail, il faut bien travailler. Dans les loisirs, on peut se détendre, mais l'important, c'est quand on est dans l'œuvre du Seigneur. C'est ça qui est important. Il y a cette tendance-là toujours de penser, ben, il y a ceux qui travaillent à temps plein pour le Seigneur. Ben, tout le monde travaille à temps plein. Si on est un chrétien, on travaille à temps plein pour le Seigneur. Qu'on soit dans un travail séculier, c'est pas grave. Comme on a vu, il faut le faire comme servant le Seigneur. Tout ce qu'on fait, c'est toujours, on est à temps plein pour le Seigneur. On est engagé dans l'armée du Seigneur. On est dans le combat pour le Seigneur. Puis on doit combattre avec toute sa force toute puissante. Donc, il faut revêtir. Il faut mettre l'armure qui nous est fournie. Puis de quelle façon? Ben, c'est être dans la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, dans l'assemblée que le Seigneur nous a placée, puis aller faire la grande commission, aller annoncer l'Évangile. Ça, c'est important qu'on comprenne bien ça, là. Mais l'apôtre ici, là, il définit bien l'ennemi, là. Au verset 11, il l'appelle le diable, hein, contre les ruses du diable. Donc, c'est le diable. Dans le verset 16, il l'appelle le malin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, il l'appelle le malin. Et dans le verset 12, il les appelle ici, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, donc les puissances, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il y a toute des dominations, là, des autorités, des puissances dans les lieux célestes. Puis ça, c'est les puissances du mal. On dit, ouais, mais les lieux célestes, ce n'est pas le ciel. Le ciel, c'est la présence même de Dieu. Mais les lieux célestes, c'est au-dessus de nous autres. Puis quand nous, on veut atteindre le ciel, ben, on passe par les lieux célestes. Puis c'est là que le conflit se fait, là. On sait qu'on voit ça comme Daniel quand il priait, là, pendant 3 semaines, il priait. Mais il y a eu un combat qui était au-dessus de. L'ange avait été envoyé pour aller parler mais il a dû combattre contre ces puissances-là pour rejoindre Daniel dans sa prière. Donc, on voit qu'il y a vraiment un conflit. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Comme Israël devait combattre dans le pays de la promesse, c'est un type des lieux célestes. Il y avait des ennemis là, dans le pays de la promesse. Quand ils sont arrivés, il y avait des ennemis, il fallait qu'ils combattent pour posséder les bénédictions spirituelles. Pour posséder le pays qui leur avait été promis, il fallait combattre les ennemis qui étaient dans le pays. Il fallait les chasser pour prendre possession du pays. Puis c'est la même chose pour nous. Dans les lieux célestes, on va prendre possession de nos bénédictions, mais ils ne vont pas les laisser aller comme ça, là. Il faut qu'on combatte, mais on combat avec le Seigneur. Puis c'est important, c'est dans les lieux célestes. Les mêmes endroits que sont nos bénédictions. Dans le chapitre 1, au verset 3, il avait dit ici, regarde, il avait dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Donc, c'est dans le même endroit, là où sont nos bénédictions, là sont aussi nos ennemis. On sait qu'un jour, au milieu de la tribulation, Satan et ses anges, il n'y aura plus de place pour eux autres dans le ciel. Ils vont être jetés, ils vont être précipités sur la terre au milieu de la tribulation. Puis ensuite de ça, ben, ils vont être relâchés, ils vont être mis dans l'abîme pendant le 1000 ans du règne de Christ, à la fin de la tribulation. Puis à la fin des 1000 ans, ils vont revenir pour encore mener une rébellion contre Dieu. Puis ensuite de ça, ils vont être jetés dans l'étang de feu. Mais présentement, dans les lieux célestes, il y a les puissances, il y a les dominations, les puissances du mal, les esprits malins qui sont là. Puis, c'est là qu'on a notre combat, nous autres. C'est pour ça que si c'était. On va pas là avec des fusils, là, puis des épées, puis parce que c'est pas. C'est du spirituel. Le combat est dans le spirituel. Mais donc, il a bien défini l'ennemi, puis il a défini aussi le champ de bataille. Le champ de bataille, c'est dans les lieux célestes. Puis, mais il nous donne aussi les méthodes d'attaque de l'ennemi. Comment l'ennemi va nous attaquer? Il définit ces façons-là que l'ennemi, de la façon comme qui nous attaque. La méthode, ben, au verset 11, c'est des ruses. Il nous parle ici, les ruses du diable. Les ruses, c'est des choses qui sont, d'une façon, ce n'est pas nécessairement évident, mais c'est un piège que Satan nous tend. Il faut être bien alerte pour bien comprendre. Puis aussi, au verset 16, c'est des traits enflammés de l'ennemi, donc du malin ici. C'est important. Donc, puis le temps d'attaque, ben, il définit aussi le temps de l'attaque. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc, c'est le mauvais jour, c'est ça. C'est ici qu'on est dans le temps. L'attaque est pour nous ici, là. Donc, on a l'endroit où c'est dans les lieux célestes. Les méthodes d'attaque de l'ennemi, c'est les ruses, les traits enflammés. Puis le temps d'attaque, c'est les mauvais jours. Donc, on s'engage, nous engageons le conflit afin, c'est nous autres qui va attaquer. On est une armée. On va attaquer dans les lieux célestes. C'est nous autres qui engagent le conflit. C'est sûr que si on n'engage pas le conflit, Il n'y aura pas de bataille parce que c'est comme un peu quelqu'un qui était à la chasse, puis il était avec son serviteur était chrétien, puis il parlait du Seigneur, puis il dit, garde, il dit, toi, t'es chrétien, puis t'es mon serviteur, puis moi, je suis libre, je ne suis pas chrétien, puis j'ai tout, t'as de la misère, mais moi, je n'en ai pas, moi, ma vie est belle, tout ça. Puis il était à la chasse au canard, puis à un moment donné, il tire des canards, puis il y en a un qui tombe à terre mort, poum. Puis il bouge pas. Mais l'autre, il essayait de se sauver. Puis là, l'autre, le chrétien, il va pour ramasser le canard qui était à terre puis qui bougeait plus. Il dit, non, 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 laisse les filles, il est mort. Lui, il va après celui-là qui vivait. Puis là, il a dit, garde, c'est comme ça. Toi, t'es mort. L'ennemi, il dit, c'est pas grave, laisse les filles, lui, il est mort. Mais il va après celui-là qui est vivant. C'est pour ça qu'il y avait celui qui, nous autres, quand on est vivant pour le Seigneur, c'est nous autres qu'on connaît vraiment l'adversité de l'ennemi. Parce que ceux qui sont morts, ben, il n'y a pas de problème avec eux autres, ils suivent. Ils suivent. Mais nous autres, quand on veut résister, quand on veut suivre le Seigneur, ben c'est nous autres, c'est à nous autres qui va s'attaquer encore davantage. Mais nous autres, on va engager le conflit pour posséder nos bénédictions. Comme Josué avec Israël, ben, tant qu'il était de l'autre côté du Jourdain, il n'engageait pas la bataille. Mais du moment qu'il a traversé le Jourdain, puis qu'il est arrivé à Jéricho, la forteresse, c'est lui qui a engagé la bataille. Le Seigneur avait dit, il leur donnait l'ordre de marcher. D'aller, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Donc, il fallait qu'ils mettent le pied sur le terrain. Puis, quand ils sont arrivés, on sait que Jéricho, ils ont voulu résister. Ils avaient entendu parler de ce que Dieu avait fait à Pharaon quand il les a sortis d'Égypte, comment il avait ouvert la mer pour eux autres. Puis là, ils savaient qu'ils s'en venaient. Ça fait qu'ils étaient dans une forteresse. Jéricho, c'était une forteresse avec des murs qui étaient imprenants. Puis ils se sentaient en sécurité en arrière de leurs murs, sauf Rahab. Rahab, elle n'avait pas confiance dans les murs. Il n'était pas assez épais. Il n'était pas assez haut. Elle avait confiance dans le Dieu qui venait les attaquer. Puis elle a cherché le refuge dans le Dieu qui venait attaquer. Puis les murs n'allaient pas tenir. Elle avait la confiance que les murs de Jéricho ne tiendraient pas, puis qu'ils ne pourraient pas les défendre contre l'armée qui s'en venait. Puis elle a pris refuge dans l'armée. Puis les autres qui se sont réfugiés derrière les murs, ils ont été vaincus. C'est pour ça que, comme Josué, avec Israël, ils se sont avancés vers Jéricho. Puis avec la méthode du Seigneur, c'est d'un côté de faire le tour de la ville ça, pendant 7 jours. On dit, mais qu'est-ce que ça va donner? C'est la foi qui pouvait faire ça. Ils pourraient penser, ben, ça ne donne à rien de faire ça, là. On va marcher autour de la ville. Puis les gens dans la ville, ils devaient les regarder passer et dire, qu'est-ce qu'ils font là? C'est la façon de combattre que Dieu avait dit. Puis le 7e jour, ben, ils ont sonné des trompettes, puis les murs se sont écroulés. Fait que Dieu a donné la victoire. Pour ça, le combat, c'est pas contre la chair, le sang, c'est lui, le Seigneur, qui sait comment nous conduire au combat, comment nous donner la victoire dans le combat. Mais c'est nous autres qu'on attaque l'ennemi. On va le voir ici. Il dit dans Matthieu 16, 18, le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, on parle ici, il dit que je vais bâtir mon église. C'est ça qu'on parle. On est une église, on est le corps de Christ, on est une armée au service du Seigneur. Puis on s'en va combattre le combat du Seigneur avec la puissance du Seigneur. Mais, vous savez, les portes, ils ne vont pas attaquer. C'est nous autres qu'on va bombarder les portes de l'ennemi. Parce que les portes, ce n'est pas que Satan il vient avec les portes pour nous attaquer. Mais c'est nous autres qu'on va attaquer la forteresse de l'ennemi. Puis il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. C'est qu'on va, avec la puissance de Dieu, comme ils ont fait tomber les murs de Jéricho, c'est nous autres qui va faire tomber les portes du séjour des morts que Satan, il tient ici. Donc, il ne faut pas se relâcher, mais tenir ferme. Voyez-vous ici, dans le verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, il faut tenir ferme. Ouais, c'est ça. On voit ici, quand l'expression du verset 10, quand il dit au reste, frère, là, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute-puissante. Regardez, c'est une expression qui revient 4 fois dans le Nouveau Testament ici, là. Dans 2 Corinthiens 13, 11. 2 Corinthiens 13, au verset 11. Il dit ici, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Donc, d'après l'enseignement qu'il leur avait donné dans 2 Corinthiens, là, mais la conclusion ici, il dit, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous. Donc, c'est l'application de toute l'instruction qu'il avait donnée. Puis après ça, dans Philippiens 3.1, Philippiens 3.1, il y a la même expression ici. Il dit, au reste, frères, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Puis on sait que l'Épître aux Philippiens, ben, c'est un épître que dans la joie du Seigneur, qu'on doit se réjouir dans le Seigneur. Paul se réjouissait, il était en prison dans les chaînes, mais il se réjouissait dans le Seigneur. Puis il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est ce qui est important. Dans le chapitre 4 de Philippiens, au verset 8, il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il a parlé ici du combat dans la pensée. Donc, il dit, au reste, la conclusion de ça, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, mettez dans vos pensées ce qui est important. Puis, ensuite de ça, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 3 et le verset 1, elle dit, au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Donc, il parlait aux Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il y avait, l'influence qu'il y avait eue sur eux, le résultat de ce qu'ils avaient prêché. Puis là, il dit, au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande comme elle s'est répandue chez eux, qu'elle puisse se répandre partout où le Seigneur les envoyait ici, là. Donc, c'est une expression que Paul pourrait introduire un nouveau sujet, là. Puis, mais l'armure est complète. L'armure est pour la défense, tenir ferme. Il parle de tenir ferme et résister. Puis pour l'offensive aussi, il dit de lutter. Donc, c'est ça. On doit mettre cette armure-là. On est dans un grand conflit. Il faut avancer par la force toute-puissante du Seigneur, réaliser le conflit. L'armure est là, elle est fournie, mais il faut nous la revêtir. Le Seigneur, il nous laisse faire ce qu'on peut faire, mais il fait ce que nous ne pouvons pas faire. Mais il faut nous avancer, réaliser le combat, puis avancer comme un corps, marcher dans ce combat-là, aller de l'avant pour remporter les victoires éternelles pour le Seigneur. Fait que je m'arrête là pour tout de suite. Je vous donne la possibilité de reprendre votre micro. Et si vous avez des commentaires ou des questions, on va passer le reste du temps. Il nous reste 7 minutes
Monsieur,
pour.
si tu peux reprendre la parole.
As-tu de la difficulté? Un petit peu. OK, essaye encore, Nelson, je pense. Ça marche pas? Je vais essayer de. Je vais essayer encore de te donner la.
OK, là, tu m'entends-tu?
Oui, là, on t'entend, oui. OK.
OK. Non, je veux revenir, c'est dans les lieux célestes.
Okay.
Alors, ça fait plusieurs années que j'étais au Seigneur, puis je ne m'étais jamais arrêté à les lieux célestes. En Christ, je pensais que c'était les croyants qui étaient là, mais les puissances des ténèbres sont là aussi.
Ouais.
Je n'avais jamais réalisé comme ça, là.
Parce que l'endroit où on est ici sur la Terre, il y a la voûte céleste, c'est l'atmosphère. Après ça, il y a les lieux célestes, qui c'est là qu'il y a le conflit spirituel, les puissances. Après ça, il y a le paradis ou le troisième ciel que Paul y parlait, là. C'est que pour nous, on a l'accès au troisième ciel, mais il faut passer par les lieux célestes.
Non, c'est bien correct. J'ai bien aimé. Je crois que j'ai compris. J'ai compris un peu c'est quoi que ça voulait dire, là. Merci, Véral, là-dessus.
Gérard? Oui.
Oui, un chrétien là, qui est en position d'autorité, est-ce pourrait être comparé comme un enseignant en ce qui concerne lorsqu'il est écrit qu'on sera jugé plus sévèrement?
Oui. Oui, dans un sens, oui, parce que quand tu enseignes les autres, c'est ça, tu enseignes. Ben, ton autorité, c'est la parole de Dieu. Mais tu vas être redevable. C'est pour ça qu'il faut bien. L'autorité que le Seigneur donne, c'est sa parole. Nous, on n'a pas d'autorité. Quand le Seigneur Jésus parlait, eux, il disait qu'il enseignait pas comme les scribes, mais il enseignait comme ayant autorité, parce que lui, c'est sa parole. Mais nous autres, ce n'est pas notre parole, c'est sa parole à lui. Ouais. Mais c'est ça, ceux qui sont en autorité dans l'Assemblée, ben on doit se soumettre, que ce soit, on parle des anciens, on a les diacres aussi qui sont dans l'Assemblée, qui dirigent l'Assemblée. Ils font comme servant le Seigneur, mais nous, les brebis, on doit se soumettre à eux autres. Ouais. Puis même dans les ministères, des fois, quelqu'un est dans un ministère, il va diriger d'autres dans le ministère. Ça fait que c'est important qu'on se soumette, parce que si on ne se soumet pas, ben, ça va être l'anarchie.
Oui. Tu mentionnais, Gérard, que la vie chrétienne dans la chair est impossible.
Ouais.
Je me demandais, quand on lit dans Matthieu 11, 12, ça dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que ça peut aller avec la pensée que tu as mentionnée?
De quelle pensée, Lévi?
Ben, ça dit que ce sont les violents qui s'en
Ouais.
emparent du royaume de Dieu.
OK,
Dans
oui.
Matthieu 11, 12.
Oui. Depuis le temps de Jean-Baptiste, ouais, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Oui. C'est ça, oui. Comme tu veux dire que c'est des gens qui prennent l'autorité qui devraient pas prendre.
Non, ça veut dire que c'est pas. Ben, il faut se faire violence, en tout cas.
Ouais,
Il faut se
pour
faire
combattre.
violence.
Ouais, pour combattre,
Ouais.
là. OK, je comprends, oui. Ouais, c'est ça, il y a des abstinences, comme quelqu'un qui va au combat, là, il a besoin de faire des abstinences pour bien combattre, là. Ouais. Et puis de forcer, là, c'est ça, ouais. La force toute puissance du Seigneur.
Est-ce qu'on pourrait dire que quand Satan a été jeté du paradis, il a été là dans les lieux célestes, il a été jeté là?
Ouais, mais le conflit s'est passé dans les lieux célestes. Parce que c'est dans la création, tu sais, la création même sur la terre, là, tout était en harmonie avec son créateur. Mais le conflit est arrivé dans les lieux célestes, puis le Satan, bien, il a induit les hommes dans la rébellion, parce qu'il avait déjà la rébellion avec les anges qui se sont révoltés contre Dieu avec Satan. Le conflit était là, mais il est descendu sur la terre quand les hommes se sont soumis à Satan. Là. Puis. Mais le conflit reste dans les lieux célestes jusqu'à ce que, au milieu de la tribulation, il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges qui combattent contre le dragon, ses anges. Puis là, il n'y a plus de place. Il y a plus de place pour eux autres. Ils sont jetés sur la terre au milieu de la tribulation. Après les premiers 3 ans et demi, puis là, ils s'acharnent parce qu'ils savent qu'ils n'en ont pas pour longtemps. Il reste 3 ans et demi. Ensuite de ça, mais Satan va être lié pendant 1000 ans. À la fin de la tribulation, puis pour revenir à la fin des 1000 ans, puis là, quand il est relâché, puis il va ramener une rébellion avec ceux qui sont aux quatre coins de la terre, puis après ça, il va être détruit par le feu qui descend du ciel, puis il va être jeté dans l'étang de feu. Parce que là, tout après ça, le Seigneur Jésus-Christ va tout soumettre, là. Il va tout se soumettre à lui-même, puis lui-même va se soumettre au Père, puis ça va revenir dans l'harmonie qu'il y avait avant que le péché entre.
Quand Satan a négocié pour la question de Job,
Ouais.
c'était dans les lieux célestes.
Ouais.
Il a dit à Dieu, Job, il t'obéit, mais c'est pas que tu le bénis, puis tout ça. Ça veut dire que c'était dans les lieux célestes que le combat se déroulait.
Ouais, c'est ça. Puis, c'est-à-dire, il a donné une certaine liberté d'action, mais il était quand même limité. Ouais. Le Seigneur l'a limité. Mais c'est un peu comme quand le Seigneur il disait à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Puis quand tu seras revenu, raffermis tes frères. Mais dans le sens, quand il dit quand il va cribler comme le froment, mais qu'est-ce qui va arriver quand on crible le froment? Ben, c'est qu'on enlève la paille.
C'est ça, on se parle.
On sépare la paille. Ben, c'est comme un peu,
Oui.
si ça dit, tu veux avoir la paille, tu peux l'avoir, mais moi, je vais
Ouais.
garder mon blé.
OK.
Puis il a prié pour Pierre afin qu'il ne défaille, sa foi ne défaille point. Mais certains, ils nous réclament aussi pour nous attaquer. Mais aussi, il ne faut jamais oublier que le Seigneur nous dit, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. C'est que c'est important de réaliser ça. Oui, on est dans un conflit. Il faut bien s'armer. Il faut prendre les armes que le Seigneur nous a données. Mais c'est le Seigneur qui va combattre, comme il combattait avec Israël quand ils ont rentré dans le pays. Ils ont eu des victoires extraordinaires par la puissance de Dieu, là. Même jusqu'au point que Josué a demandé, il n'avait pas fini le combat, puis il a demandé que le soleil s'arrête, puis le soleil s'est arrêté presque toute une journée là, parce qu'il n'avait pas fini la job. C'est quelque chose, le Seigneur, il met une grande puissance là, à notre disposition.
Verset que tu viens de citer concernant les tentations, qu'on n'est pas tenté au-delà de nos forces, ça s'applique aussi pour les épreuves?
Oui.
Oui.
Oui. Ben, les épreuves, c'est ça. Les épreuves, c'est des attaques aussi, dans un sens, mais le Seigneur les retourne pour que ça puisse. Quand on chante, je veux te rendre grâce pour toutes les épreuves, elles purifient ma foi et me façonnent à toi. Puis, c'est ça, c'est important. Le Seigneur les utilise comme Pierre. Il a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Ça fait que Pierre, il passe un mauvais quart d'heure, mais le Seigneur, il l'a sorti de là, il a donné la victoire. Fait qu'il faut pas avoir peur dans un sens. Si on a peur, on va se cacher. On le voit quand on va mettre l'armure. L'armure est pour l'offensive. L'armure, quand on vire de bord, il n'y a rien pour protéger le dos. C'est toujours protéger le devant, c'est quand on fait face, là, c'est ce qui est important.
Mais c'est bon, comme disait le frère tantôt, il est bon que ça, de comprendre ce que tu disais tantôt, de clarifier entre les lieux célestes et le ciel, ces choses-là. Parce que si on mélange tout ça, on devient un peu confus dans la parole.
Ouais, c'est ça,
Si c'est clair dans notre esprit, ben, il y a certains passages qu'on va peut-être mieux comprendre aussi.
Ouais, c'est ça, c'est de dispenser droitement de la parole de Dieu, le pouvoir
Oui.
comparer. Puis c'est ça que des fois, les religions, là, c'est ce qu'ils font, ils dispensent pas droitement de la parole de Dieu. Ils
Oui.
prennent des passages sans les comparer avec les autres.
Oui.
Puis avoir le plan que Dieu a là, dans sa pensée, là.
Oui. Mais merci pour l'explication générale ce soir. Merci beaucoup.
Le temps est arrivé, on a dépassé, j'ai pas réalisé. On va peut-être prier pour ceux qui doivent partir, puissent partir, puis s'il y en a d'autres qui veulent discuter, on peut discuter encore. Seigneur notre Dieu, on te remercie de ce que toute l'information que tu nous donnes, des instructions que tu nous donnes, Seigneur. Puis oui, on est dans un grand conflit, mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et on est du bon côté du conflit, Seigneur, comme les gens de Jéricho qui se croyaient en sécurité derrière leurs murs ont été vaincu, tandis que Rahab, qui elle a mis sa confiance dans le Dieu d'Israël, elle a été sauvée. On te remercie pour ça, Seigneur. On te remercie qu'on est plus que vainqueur par celui qui nous a tant aimés. Mais donne-nous de revêtir notre armure afin qu'on puisse se revêtir de ta force toute-puissante. On t'en rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.